Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, l'Éthiopie, la Guinée et le Mali sont retirés de la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA qui facilite les exportations sans droit de douane vers les États-Unis. Au Nigeria, 6 personnes kidnappées à l'université d'Abuja, la capitale. Une dizaine de civils tués par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina. En Centrafrique, 10 casques bleus égyptiens blessés par des tirs de la garde présidentielle. En Afghanistan, au moins 19 morts après une attaque contre l'hôpital militaire de Kaboul. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Les États-Unis vont retirer le Mali de la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA, le programme qui facilite l'exportation des produits commerciaux vers les États-Unis sans droit de douane. Cette suspension va entrer en vigueur en janvier prochain. En plus du Mali, la Guinée et l'Éthiopie sont également suspendus de l'AGOA, selon une lettre du président Joe Biden au Congrès américain. Il cite des cas de violation flagrante des droits de l'homme en Éthiopie et reproche à la Guinée de n'avoir pas instauré ou de n'avoir pas fait de progrès vers l'instauration de l'état de droit et du pluralisme politique. Le président américain dit que le Mali n'a pas établi non plus la protection de l'état de droit, du pluralisme politique et de n'avoir rien fait contre les violations flagrantes des droits de l'homme. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé des étudiants et des membres du personnel d'une université à Abuja, la capitale. Les enlèvements dans les écoles contre rançon sont courants dans le pays. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
Des hommes armés ont kidnappé 6 personnes de l'université d'Abuja, a déclaré la porte-parole de la police Josephine Adé. Selon elle, des criminels armés ont envahi aux premières heures de la journée les quartiers du personnel. Sur sa page Facebook, l'université précise que 4 membres du personnel et leurs enfants ont été enlevés. Les assaillants ont facilement maîtrisé les services de police de l'université avant de s'introduire dans les domiciles des professeurs. La porte-parole de la police affirme que les forces de sécurité ont lancé une opération de sauvetage pour retrouver les victimes. Les enlèvements dans les écoles et les attaques contre les villages pour rançon sont courants dans le nord-ouest du pays. Mais des attaques contre les grandes institutions à Abuja sont très rares. Le mois dernier, des agents de sécurité ont secouru 187 personnes enlevées lors du raid contre des gangs criminels dans des forêts de l'État des Zamfara. Plus de 1400 élèves ont été victimes d'enlèvements de masse depuis décembre 2020. La plupart ont été libérés après paiement du rançon, mais des dizaines sont toujours en détention.
Au Nigeria toujours, le bilan de l'effondrement hier d'un immeuble en construction à Lagos s'est alourdi à 15 morts. 9 personnes ont été extraites vivantes des décombres ce mardi, a annoncé un porte-parole des opérations de secours. Au Burkina Faso, des djihadistes présumés ont tué une dizaine de civils lundi dans le nord, près de la frontière avec le Niger. C'est ce qu'ont indiqué un responsable militaire et des élus locaux. Abdourahmane Dia.
Pour ce responsable militaire, les auteurs sont vraisemblablement membres de l'État islamique au Grand Sahara. Ils ont intercepté des habitants de Dambam en partance pour le marché de Markoye dans la région du Sahel et en ont exécuté une dizaine. 4 autres sont toujours portés disparus selon la même source qui précise que des militaires ont été déployés dans la zone pour faire des ratissages. Un élu de la région affirme que les terroristes ont dressé un barrage sur l'axe entre Dambam et Markoye et intercepté tout ce qui se rendait au marché. Selon un autre élu interrogé par l'AFP, la plupart des victimes ont été lâchement assassinées, égorgées et leurs tricycles incendiés. Il s'est inquiété de la multiplication des attaques contre les civils depuis quelques semaines. Les 29 et 30 octobre, des groupes armés ont fait des incursions dans plusieurs localités de la région. Ils ont pillé des biens, emporté du bétail ou enlevé des habitants, a affirmé cet élu.
En Mauritanie, la cour d'appel de Nouakchott a rejeté une nouvelle demande de remise en liberté provisoire de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz en détention préventive depuis juin pour corruption présumée. La cour a décidé hier soir que la demande était recevable sur la forme, mais elle est rejetée sur le fond, selon une source proche du parquet. Le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence dans l'ensemble du pays, a annoncé le média d'État Fana, alors que les rebelles tigréens qui affrontent les forces pro-gouvernementales depuis un an ont revendiqué ce week-end la prise de deux villes stratégiques. Les autorités éthiopiennes ont appelé la population à s'organiser et à se préparer à défendre leur quartier, alors que les combats entre forces pro-gouvernementales et rebelles tigréens font rage à quelques centaines de kilomètres au nord. Crise au Soudan, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, a réclamé l'annulation de toutes les mesures prises le 25 octobre, jour du coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan au Soudan, mené, a-t-il dit, par des militaires de mauvaise foi. Au Tchad, les principaux groupes rebelles se sont dit disposés à participer au dialogue national sous certaines conditions après des rencontres à Doha et Paris avec le comité chargé de préparer ce dialogue. Mahamat Idriss Déby Itno a mis en place en août le comité technique spécial chargé de préparer ce dialogue national inclusif qui doit conduire à des élections présidentielles et législatives. Les rebelles demandent la libération de prisonniers de guerre, l'amnistie générale à tous les politico-militaires et la restitution de biens saisis par le gouvernement. En RCA, 10 casques bleus égyptiens de la MINUSCA ont été blessés suite à des tirs effectués par des éléments de la garde présidentielle à Bangui. La MINUSCA dénonce une attaque délibérée et inqualifiable. Les autorités centrafricaines parlent d'un incident provoqué par les soldats de l'ONU. À Bangui, pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Selon la MINUSCA, les 10 casques bleus blessés par des tirs de la garde présidentielle font partie de l'unité de police constituée égyptienne arrivée le 1er novembre à Bangui. Ils circulaient à bord d'un bus lorsqu'ils ont essuyé des tirs non loin de la résidence du président Faustin Archange Touadéra. Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA.
Ces casques bleus sont arrivés le 1er novembre à l'aéroport international de Bangui Mpoko dans le cadre de la rotation périodique et du déploiement des troupes en RCA, et alors qu'ils étaient en direction de leur base, ces éléments transportés dans des bus ont essuyé des tirs de la garde présidentielle sans sommation préalable ni riposte aucune. La MINUSCA condamne fermement ce qui apparaît être une attaque délibérée et inqualifiable que rien ne justifie.
Le quartier général du contingent égyptien de la MINUSCA se situe à une centaine de mètres de la résidence du président centrafricain. Selon des sources sécuritaires, la garde présidentielle a effectué des tirs de sommation pour intercepter le bus dans lequel se trouvaient des gens non identifiés qui filmaient la résidence du chef de l'État. L'état-major des armées, de son côté, a promis un communiqué dans les prochaines heures sur cet incident. Par ailleurs, une fille est morte après avoir été heurtée par le véhicule de la MINUSCA dans sa course pour échapper aux tirs. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, le dépouillement se poursuit après les élections municipales d'hier. En début d'après-midi, le Congrès national africain avait provisoirement engrangé 46% des voix, laissant présager le pire score pour le parti historique de Nelson Mandela depuis les premières élections démocratiques en 1994. Les résultats définitifs seront annoncés jeudi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, au moins 19 personnes ont été tuées et 50 blessées dans une attaque suicide contre l'hôpital militaire national de Kaboul. L'attentat survient dans un contexte de violence croissante entre les talibans au pouvoir et le groupe État islamique. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'attaque qui a visé l'hôpital Sadar Mohamed Daoud Khan, le plus grand hôpital militaire du pays, a été menée par un kamikaze à moto qui s'est fait exploser à l'entrée de l'hôpital, a précisé un responsable taliban. Plusieurs autres assaillants ont ensuite réussi à entrer dans l'hôpital où ils ont fini par être abattus par des combattants talibans arrivés sur les lieux. Depuis leur arrivée au pouvoir le 15 août, les talibans sont confrontés à une vague d'attentats menés par le groupe État islamique. Cette branche rivale a ciblé ces dernières semaines aussi bien les talibans que la minorité chiite afghane. La dernière attaque à Kaboul remonte au 3 octobre. Au moins 5 personnes ont été tuées dans une explosion survenue près de la mosquée Eidgah, revendiquée par le groupe État islamique. Cet hôpital a déjà été visé en mars 2017 par des assaillants habillés en personnel médical. Une fusillade sanglante pendant 6 heures à l'intérieur du bâtiment avait fait 50 morts selon le bilan officiel, plus du double selon des sources sécuritaires. Elle a aussi été revendiquée par le groupe État islamique.
Conférence sur le climat à Glasgow en Écosse. Deux accords ont été signés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une centaine de pays se sont engagés à réduire drastiquement les émissions de méthane d'au moins 30% d'ici 2030. D'autre part, une centaine de pays abritant 85% des forêts mondiales, dont le Brésil, ont également promis d'enrayer la déforestation. À ce propos, le gouvernement de Joe Biden a dévoilé ce mardi une série de réglementations visant à nettement réduire les émissions de méthane de l'industrie pétrolière et gazière aux États-Unis, avec pour objectif de montrer l'exemple en pleine COP26. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné à la Société nationale des hydrocarbures de ne pas reconduire le contrat du gazoduc passant par le Maroc et alimentant l'Espagne en gaz au vu des pratiques à caractère hostile du Maroc voisin. Les livraisons de gaz à l'Espagne se feront désormais exclusivement via le gazoduc sous-marin Medgaz lancé en 2011. Le Maroc soutient que la décision d'Alger n'aura dans l'immédiat qu'un impact insignifiant sur son système électrique. En Afrique du Sud, l'entreprise publique de fret Transnet a temporairement fermé un important oléoduc à Durban suite à un incendie provoqué par une tentative de vol de carburant qui a fait au moins 3 morts. Ces 2 dernières années, Transnet a été victime de plusieurs incidents liés à des vols de carburant. La compagnie continue à travailler avec les forces de l'ordre pour tenter de mettre fin à cette activité criminelle. Pour terminer, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se retrouvent jeudi par visioconférence pour éventuellement ajuster leur volume de production d'or noir. Les membres de l'OPEP devraient reconduire leur politique actuelle de limitation de l'offre au nom de la prudence, profitant ainsi des cours élevés. Il s'agit aussi de se protéger d'un choc brutal en cas de retour prochain de l'Iran sur le marché.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Cyclisme pour commencer avec le Tour cycliste international du Faso qui se poursuit au Burkina. L'étape 5 courue aujourd'hui entre Lumbila et Kaya a été remportée par l'Allemand Bilschmann Daniel. Nous retrouvons notre correspondant Kader Traoré sur les routes du Tour.
Ils étaient 74 coureurs à s'attaquer aux 105 km qui séparaient Lumbila de Kaya pour le compte de la 5e étape du Tour du Faso. Une étape où les choses sont allées très vite car les forçats de la route ont établi une nouvelle vitesse moyenne horaire infernale. Au terme de 2h, 2 minutes et 58 secondes de course, c'est l'Allemand Daniel Bilschmann de la team suisse Ibag Oborg qui s'est imposé dans un sprint massif. On écoute le directeur sportif du vainqueur du jour, Jean-Jacques Lou.
Aujourd'hui, c'est la moitié. On sait que des fois, la route est piégeuse. C'est leur première participation à une course africaine. Et Dieu sait si le Tour du Burkina Faso est la course la plus difficile et la plus longue.
Si l'étape allait très vite, elle a aussi connu une chute massive à une centaine de mètres de la ligne d'arrivée. 6 coureurs, dont 2 Burkinabés et pas des moindres, étaient parmi les infortunés. Le docteur Ibrahim Séré est le président de la commission médicale du Tour.
Les chutes ont concerné 2 Burkinabés, un Allemand, un Belge, un Ivoirien et un Camerounais. Les cas les plus graves étaient celui de Burkinabé et de l'Allemand. Ils ont été tout de suite transportés dans une formation sanitaire de référence.
Le maillot jaune est toujours la propriété du Belge Rutger Wouters. Il possède 2 secondes d'avance sur le Marocain Mouchin El Kouradji et 7 sur l'Algérien Nassim Saïdi.
Football, la 4e journée de la Ligue des Champions se joue ce soir en Europe avec 3 victoires, 12 buts inscrits et aucun encaissé. Le Bayern Munich est sûr d'être qualifié pour les 8e en cas de succès face au Benfica Lisbonne. À l'opposé, Barcelone continue de végéter à l'heure d'un déplacement crucial à Kiev. Manchester United se déplace à Bergame en Italie pour faire face à l'Atalanta. Villarreal joue contre les Young Boys de Berne. Les Autrichiens de Salzbourg pourraient se qualifier en cas de succès chez les Allemands de Wolfsburg. La Juventus Turin entrevoit déjà les 8e au moment d'accueillir le Zénith Saint-Pétersbourg. Un succès validerait le biais des Turinois. NBA, Chicago prend seul la tête de la conférence Est en renversant Boston. 128-114, Indiana met fin à une série de 4 défaites consécutives en surclassant San Antonio 131-118. Même sans le Camerounais Joel Embiid au repos, Philadelphie n'a pas flanché et s'est imposé à domicile contre Portland 113-103. Washington a trébuché sur le parquet d'Atlanta 118-111, tout comme New York battu à domicile 113-104 par Toronto.
Merci à toi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. En RCA, l'opposition annonce son retrait du comité préparatoire du dialogue républicain. Décision motivée par la relance d'une procédure de la levée d'immunité de 3 députés de l'opposition par le chef du Parlement. Un retrait qui a poussé l'Assemblée nationale à faire machine arrière. À Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
L'annonce du retrait de l'opposition du comité préparatoire du dialogue républicain survient comme un électrochoc alors que les préparatifs sont sur la dernière ligne droite. Siriac Gonda, président de la coalition de l'opposition démocratique, la CO 2020.
Ce qui a motivé notre sortie aujourd'hui, c'est cette résurrection malheureuse de la procédure de levée d'immunité de nos députés, les députés de l'opposition, par le président de l'Assemblée nationale. Pourtant, nous pensons que cette procédure-là était jugé inopportune. Il a été dit clairement qu'il faut des mesures de décrispation.
L'annonce a vite suscité des réactions. Paul Cresson-Beninga, rapporteur général du comité préparatoire du dialogue républicain, pense qu'il faut donner une chance à ce énième dialogue.
J'en appelle à la sagesse de tout un chacun. J'invite le président de l'Assemblée nationale à suspendre cette initiative qui est aujourd'hui manifestement une initiative chrysogène. J'en appelle également au leadership du médiateur de la République qui doit se saisir de cette question afin effectivement de faire revenir dans ce processus-là les forces politiques de l'opposition. Le dialogue n'a de sens que si toutes les forces vives de la nation se réunissent autour d'une table. Donc nous avons besoin de toutes les forces vives de la nation pour ce dialogue-là.
Les associations des victimes se disent inquiètes. Francine Demadé est coordonnatrice de la plateforme des organisations des victimes en Centrafrique.
Mais c'est avec tristesse que j'ai appris les opposants et d'autres qui sont en train de quitter ce processus-là. Et du coup, c'est un déséquilibre total. Les victimes continuent de voir le jour. Alors nous ne voulons pas que ça continue ainsi.
Face à cette montée de tension, le média de la République, El Hadj Moussa Laurent Gonbaba, appelle au consensus.
Le dialogue, c'est la seule issue pour le retour de la paix dans notre pays. Depuis la mise en place du comité d'organisation, les travaux se déroulent avec la grande satisfaction de chaque membre, dont compris les représentants de l'opposition démocratique, de l'opposition Côte-de-Vin. Donc nous leur demandons de préserver toujours cet esprit, de préserver les acquis de ce comité jusqu'aujourd'hui et de faire en sorte que le dialogue continue pour aboutir à un résultat.
L'Assemblée nationale confrontée à des critiques fait machine arrière. Son président, Simplice Mathieu Sarandi, annonce la suspension de la procédure contestée.
Dans l'intérêt supérieur de la paix, après avis du bureau de l'Assemblée nationale, je décide ce jour de retirer la note demandant au président des groupes parlementaires de faire parvenir au bureau de l'Assemblée nationale les noms de leurs représentants devant siéger à la commission ad hoc.
Le dialogue républicain est initié par le président Faustin Archange Touadéra à la suite de la crise sécuritaire née en marge des dernières élections présidentielles et législatives. Un pourparlers qui devrait proposer des pistes de sortie de crise et il se fera sans les groupes armés. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
La COP26 se poursuit en Écosse. Des scientifiques mettent en garde les dirigeants mondiaux sur les conséquences d'un refus d'accepter des réductions très importantes des émissions de gaz à effet de serre. Selon eux, cela peut conduire à une catastrophe irréversible. Henri Ridgewell, depuis Glasgow, indique que les espoirs d'un nouvel accord sur le climat sont très minces. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Les salles de conférence de Glasgow sont officiellement le territoire des Nations Unies pour les 2 prochaines semaines. Les dirigeants mondiaux se succèdent à la tribune pour tenter de sauver la planète. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a donné le ton.
Assez de nous tuer comme du carbone, assez de traiter la nature comme des toilettes, assez de brûler, de forer et d'exploiter notre chemin plus profondément. Nous creusons nos propres tombes.
Cet avertissement sera-t-il entendu? Plus de 120 dirigeants mondiaux sont présents à Glasgow, certains défendant leur bilan en matière de climat, d'autres présentant de nouveaux engagements pour réduire les émissions. L'Inde est le troisième plus gros pollueur au monde. Les espoirs étaient grands que le Premier ministre Narendra Modi présenterait de nouveaux plans pour réduire les émissions.
D'ici 2070, l'Inde atteindra l'objectif de zéro émission nette.
Cette date, c'est 20 ans plus tard que l'objectif des Nations Unies de 2050, une déception majeure pour de nombreux militants pour le climat. L'objectif du sommet n'est pas seulement de faire des promesses sur scène, mais aussi d'évoquer les absences majeures. Le président chinois Xi Jinping, de loin le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde, n'est pas présent. Il a offert une déclaration écrite et n'a fait aucune nouvelle promesse significative de réduire les émissions. Manuel Pulgar Vildal, responsable du climat au Fonds mondial pour la nature.
Cela pourrait être probablement parce qu'ils n'ont pas grand-chose à offrir et ils préfèrent probablement éviter la pression d'être dans une COP. Cela pourrait être la réalité.
Le président russe Vladimir Poutine, quatrième émetteur mondial de gaz à effet de serre, est aussi absent. Chez les militants pour le climat, la déception est déjà palpable. C'est le cas de Greta Thunberg, la jeune défenseur du climat.
Ce COP26 est pour l'instant à l'image des COP précédentes et cela ne nous a menés nulle part. Ils ne nous ont menés nulle part.
Mais d'autres disent que la COP26 ne devrait pas être annulée. Manuel Pulgar Vidal, responsable du climat au Fonds mondial pour la nature.
Avoir enfin une vision collective du monde dont personne ne doute ni ne remet en cause, je pense que c'est une bonne chose. Mais maintenant, nous devons avoir des actions plus claires, non seulement des cibles, mais aussi des actions plus claires.
Sommet après sommet, les dirigeants mondiaux ont promis des objectifs ambitieux de réduction des émissions. Le message ici est qu'il est temps de transformer ces promesses en politique concrète.
La Virginie vote ce mardi pour élire un nouveau gouverneur dans un scrutin serré qui aura valeur de baromètre du climat politique national. New York, Atlanta et Boston changent de maire. Mais plus que les autres scrutins, l'élection en Virginie suscite un engouement particulier. L'élection oppose le démocrate Terry McAuliffe, 64 ans, et le républicain Glenn Youngkin, 54 ans. Georges Ebion a joint en Virginie l'analyste politique Emilio Viano.
Il y a seulement deux élections de gouverneurs aux États-Unis aujourd'hui, New Jersey et Virginie. Aussi que ces élections se sont transformées en élections très importantes. Il y a un an, Biden l'emportait sur Trump avec 10 points d'avance en Virginie, un État conservateur. Et cela donne l'impression claire que Trump a une excellente chance de revenir en 2024 à la Maison Blanche. Une victoire d'un candidat républicain lui donnera une légitimité pour un retour.
Selon les sondages d'opinion, l'élection se joue très serrée. Alors qu'est-ce qui pourrait départager les deux candidats?
De mon opinion, le candidat républicain a mené une campagne très bien, excellente. Dans le sens qu'il s'est présenté comme une personne ordinaire, il a presque un peu plus de 40 ans, comme un père de famille jeune, ce qui appelle beaucoup l'attention des familles dans les banlieues de Washington. Et il a transformé l'élection dans un référendum sur la famille et l'influence de la famille même dans les écoles. C'était un mouvement dans le pays de dire la famille. La famille est ce qui compte. Le gouvernement est seulement pour servir les citoyens et faire ce que les citoyens veulent. Ce qui peut sauver le candidat démocratique aujourd'hui, c'est le fait que plus d'un million de gens en Virginie ont déjà voté. Et il semble qu'il est soutenu.
Dans le camp démocrate, des poids lourds comme Barack Obama, Kamala Harris et le président Biden même ont défilé lors de la campagne ici en Virginie. Est-ce que leur soutien dans la campagne pourra-t-il avoir un effet sur le terrain?
Il y a un danger dans ça. Comme je dis, le candidat républicain a mené une campagne très tranquille. Il n'a pas donné la bienvenue à l'offre de Trump de participer. Et en contraste, le démocrate a eu le soutien de plusieurs de grands noms. Ça peut fonctionner en contre de lui, dans le sens de dire qu'il a eu le besoin de grands noms avec un peu de crédibilité. Et il n'offre pas un programme, une vision, un futur attractif aux électeurs de la Virginie. Dans cette élection, la présence d'Obama et des autres peut-être négative.
Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington, D.C.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le festival Congo in Harlem vient de terminer sa 13e édition à New York. Au programme, des films et des documentaires axés sur l'histoire, la politique et la culture de la République démocratique du Congo. Si le contexte sanitaire a rendu le festival disponible en ligne uniquement l'an dernier, cette année, le public s'est réjoui de pouvoir se donner rendez-vous au Maïlis Cinéma. Reportage à Harlem de Ginny Kapumbu-Villa.
On est en octobre et le mois d'octobre c'est... Congo in Harlem.
C'est au cœur du quartier historique d'Harlem, au Messel Cinéma, qui porte le nom de famille des célèbres frères documentaristes américains Albert et David Messel, que l'événement Congo in Harlem a refait surface après la pause momentanée de l'an dernier à cause de la pandémie. Nelson Walker, programmateur de Congo in Harlem.
Ça a été un peu difficile de faire passer le mot. Et aussi à New York, les gens sont encore en train de se réadapter et de s'habituer à sortir. Donc ça a été un vrai défi cette année.
Les films présentés cette année étaient Congo Oyé, une œuvre rare et absolument inconnue du grand public, réalisée par Bill Stevens en collaboration avec le cinéaste français Chris Marker et Elvridge et Kathleen Cleaver, membres du Black Panther. On croyait perdu ce film non achevé, mais il a été déterré il y a quelques années sur cassette vidéo à la New York Public Library. Dans New York Secret African City, le célèbre chercheur Robert Faris Thompson emmène les téléspectateurs dans une visite culturelle de New York, révélant les profondes racines africaines de la ville. Le film retrace la musique salsa de Spanish Harlem jusqu'au Congo, met en lumière la fête haïtienne Guédé, ou fête des morts, qui fait penser à Halloween. Les cérémonies Yoruba, la capoeira, la santeria et le hip-hop mettent en lumière des aspects moins connus de la culture new-yorkaise venant d'Afrique.
Chaque année, Congo in Harlem présente un programme diversifié qui vise à approfondir la compréhension du Congo par le biais de films et discussions. C'est une opportunité de découvrir la culture du Congo, d'en apprendre davantage sur son histoire et de s'engager autour de ses défis.
Par exemple, les échanges animés par le panéliste historien d'art africain Lubangi Munyanya.
C'est très important de savoir qu'il y a des événements qui mettent le Congo Kinshasa en exergue. Et voilà, donc chaque année, on vient à Harlem pour apprendre tout ce qui se passe au Congo et comment participer au développement du Congo culturel, économique et tout ce qui reste.
Le panéliste propriétaire de la galerie d'art Kente Royal, Doji Bedema.
Je pense que c'est important que nos voix sont exposées dans la média, l'information, pour qu'on puisse dire des histoires qui sont authentiques aux Africains, par des Africains. Alors, voilà ma mission.
Cet événement permet également aux natifs de l'ex-Zaïre, comme Lucie, de se reconnecter avec la terre qu'il a vue naître.
Je le suis depuis plus ou moins 10 ans, depuis que je suis revenue à New York, dans Harlem. Et ça me dit beaucoup, parce que comme je suis née au Congo, en République démocratique du Congo, il y a des années, ça me remet dans un passé que j'avais un peu oublié et qui me fait énormément de bien.
Malgré les défis de cette année, les programmateurs sont satisfaits du résultat. Congo in Harlem se poursuit chaque année à la mi-octobre.
C'est la la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.